Et vous voulez comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps.
Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions me semblent.
Martin Carly, comment vas-tu?
Ça va bien, Mathieu.
Oui, on a beaucoup parlé dans le passé de l'effet placebo.
Oui.
Ça, c'est connu, je pense, pour une majorité de gens.
Oui, absolument.
L'effet nocebo,
oui.
Qui doit être l'antithèse de l'effet placebo.
C'est exactement ça. L'effet nocebo, essentiellement, c'est le phénomène qui nous permet de... qui entraîne le fait qu'on ait des effets secondaires reliés à un traitement placebo. Imagine-toi. Donc, tu es convaincu que tu as un traitement.
Oui.
Donc, tu es convaincu que ce traitement-là fonctionne, même si c'est pas le cas, puis on t'a donné là, des molécules qui ont aucun effet, exactement. Mais parce que tu es convaincu que ce traitement-là fonctionne, ben tu es aussi convaincu que, comme tout traitement, il doit avoir des effets secondaires, et tu ressens ces effets secondaires-là. Ça, c'est l'effet de nocebo. Donc,
c'est d'ailleurs un des éléments qui a été évoqué par les diplomates étrangers. Puis, je me souviens à Cuba, là,
ce qui s'est
passé récemment avec les espèces de bourdonnements dans les oreilles. Puis, on n'a rien trouvé. Non seulement, c'est pas l'effet de nocebo.
Oui, absolument. On en parle de plus en plus. Puis souvent, c'est un peu délicat de parler de l'effet nocebo parce que quelqu'un à qui on dit, ben, il n'y a pas vraiment d'effet réel de tel truc sur toi. Donc, c'est un effet nocebo. Tu sais, ça fait pas une conversation intéressante d'habitude. Mais avec cette étude-là, ça va peut-être justement remonter le moral à un peu tout le monde, parce qu'on se rend compte que l'effet nocebo peut entraîner des effets physiques mesurables. Donc, il y a carrément, réellement quelque chose qui se produit. C'est pas uniquement une question d'imagination, là. Et c'est là où on commence à démentir les choses. Alors, de quoi on parle ici? On parle du prix des médicaments et de leur effet perçu, donc de leur effet ressenti. Parce qu'on a tendance, on savait déjà dans le passé qu'on avait tendance à penser que des médicaments qui sont plus dispendieux vont avoir un meilleur effet sur nous. Donc, et là, on rentre dans le débat des génériques. Est-ce qu'un générique qui est exactement la même molécule d'un point de vue chimique a le même effet qu'une molécule qui, elle, a été développée initialement par une compagnie qui l'a vendue selon les protections de son brevet, et ainsi de suite? Bien, les gens ont tendance à croire qu'un médicament qui est plus cher a un meilleur effet et plus performant. Ça, c'est un. Mais là, on est dans l'effet placebo ici.
Ben oui.
Mais avec cette étude-là, on se rend compte que l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que des médicaments plus dispendieux pourraient avoir des effets secondaires plus grands au niveau des gens qui reçoivent ce traitement-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Bien, ils ont fait une étude avec une cinquantaine de personnes. On leur a fait tester une crème anti-démangeaison. C'était des crèmes fictives, c'était des crèmes placebo. Il n'y avait aucun effet par rapport à ces crèmes-là. Donc, la moitié du groupe a reçu une crème qu'on appelle Solliston Cream et qui était dans une belle boîte bleue, en phase avec les crèmes les plus dispendieuses qu'on peut retrouver dans une pharmacie sur le marché, bon, ainsi de suite. Et l'autre moitié du groupe recevait une crème. Le nom, c'était de l'Imotadil Leni Pharma. Donc, clairement, on est beaucoup plus proche d'un nom chimique, donc d'un médicament potentiellement générique. Et ce médicament-là était dans une boîte ordinaire en carton orange. Donc, clairement pas de la même qualité que l'autre médicament. Donc, les chercheurs ont travaillé beaucoup sur le design des deux boîtes pour vraiment convaincre les gens que, oups, ce placebo-là était un placebo. Mais c'était pas un placebo, mais que c'était un médicament dispendieux, alors que l'autre était un médicament plutôt de régulier, générique, okay, ainsi de suite. Bon, alors, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué la crème. Ils ont demandé aux individus d'attendre un certain temps pour que la crème pénètre comme il faut la peau. Et puis, par la suite, on a mis un dispositif sur leur peau capable d'émettre un flash thermique, donc exposer une section de la peau pendant un court laps de temps à une certaine température. On parle d'une température de 45 degrés Celsius. C'est assez pour être perçu comme une sensation douloureuse, mais pas pour affecter la peau. Là, on va pas brûler la peau avec ça. Mais on sent comme, oups, tout d'un coup, on vient de me chauffer la peau. Je ressens ça comme une douleur. Eh bien, ils se sont rendus compte de deux choses. Premièrement, ceux qui avaient la crème la plus dispendieuse en apparence disaient qu'ils ressentaient deux fois plus de douleur. Donc, la douleur qu'ils percevaient étaient deux fois plus grandes que l'autre groupe qui, eux, avaient reçu la crème générique. Mais je te le rappelle, les deux crèmes étaient identiques. Okay. Donc, c'est tout dans l'effet placebo et nocebo ici.
Et, mais est-ce que le corps réagit aussi?
Ben, c'est là qu'on s'en vient et tu vas voir, ça devient fascinant. Mais juste avant, au fur et à mesure que l'étude avançait, ceux qui avaient eu la crème la plus dispendieuse, encore une fois entre guillemets, rapportaient que leur sensation de douleur augmentait régulièrement, augmentait graduellement. Donc, ça faisait de plus en plus mal. Oui. Alors que ceux qui avaient l'autre crème disaient « Non, moi, ça me fait de moins en moins mal. Je suis de plus en plus insensible à la douleur. » Donc, il y avait carrément un effet rapporté au niveau de la douleur. Mais lorsqu'on corrobore le tout avec de l'imagerie cérébrale, eh bien, on se rend compte que ceux qui avaient la crème la plus dispendieuse en apparence, qui rapportent avoir une plus grande douleur, avaient aussi une plus grande activité au niveau de leur cortex préfrontal. Ça, c'est le cortex du cerveau qui se situe juste derrière votre front, là. Donc, si vous touchez le front, la partie du cerveau qui est juste de l'autre bord de vos doigts à l'intérieur du crâne, c'est le cortex préfrontal. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est cette région-là du cerveau qui a été déjà démontrée dans d'autres études comme étant particulièrement en activité quand l'effet placebo est en train de fonctionner.
Ah.
Mais pas seulement ça. C'est aussi la région du cerveau dans laquelle on dénote une plus grande activité quand le plaisir qu'on ressent pour un produit qu'on croit être meilleur parce qu'il est plus cher est plus grand. Donc, par exemple, on dit « Hey, ce vin-là, 50$, il est meilleur. » Ben, la partie du cerveau qui est en action pour te convaincre qu'effectivement, il est meilleur, c'est aussi le cortex préfrontal. Donc, on est dans une région ici qui gère des choses plutôt intangibles, comme l'effet placebo, l'effet nocebo, et ainsi de suite. Ce qui est le plus fascinant pour compléter sur cette étude-là, c'est que on a aussi vu dans la moelle épinière que les régions de la moelle épinière qui étaient associées à la perception de la douleur étaient aussi carrément plus active chez les gens qui ont reçu la crème qui était plus dispendieuse. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois qu'on voit que des croyances et des perceptions vont carrément affecter la sensibilité des nerfs, donc le fonctionnement des nerfs dans notre corps. C'est absolument fabuleux. Et pourquoi je dis que c'est fabuleux? C'est parce que ça va pousser aussi les médecins à essayer de juger quel médicament je te donne à toi. Est-ce, si t'es quelqu'un qui a potentiellement plus peur d'effets secondaires, va falloir que je te donne un générique parce que le médicament d'origine risque d'avoir réellement des effets secondaires sur toi plus grands parce que t'en as peur.
C'est pas l'effet que tu as lorsque l'appréhension, exemple, d'une piqûre. Tu vas avoir, recevoir un vaccin, tu vois l'aiguille arriver, tu as l'impression qu'il va faire 10 fois plus mal parce que
tout ça est possible. Absolument tout ça est possible. Et je compléterais parce que le temps file puis je veux qu'on traite des autres trucs. Mais quand j'ai fait mes études au niveau de la schizophrénie au postdoc, là, une chose qui m'avait marqué, moi, c'est qu'un des profs nous avait dit que l'effet placebo fonctionne aussi chez des schizophrènes qui sont hospitalisés.
Ah,
le simple fait de changer de couleur de pilule pour passer au générique fait que pour certains schizophrènes, le traitement se met à fonctionner et ils peuvent enfin quitter l'hôpital.
Ah, ouais.
Donc là, on parle de gens qui ont un désordre de la pensée rationnelle chez qui même l'effet placebo fonctionne.
On va se parler de changement climatique et d'asphalte. On en a parlé tout à l'heure.
Absolument, absolument.
On dit qu'on travaille avec des espèces de vieilles formules qui datent des années 60, finalement.
Oui, absolument. Évidemment, changement climatique, c'est graduel, hein? Ça veut dire qu'à chaque année, ben, il faut tenir compte du petit ajustement, si minime soit-il, mais au niveau des conditions climatiques, des conditions météo qui affectent une région. Et ça affecte, on a parlé tantôt en tour de table, ça affecte le choix des matériaux que les ingénieurs doivent faire pour construire des routes dans une région donnée. Alors, évidemment, ils vont vouloir choisir, par exemple, si on parle de l'asphalte des routes ici, là, c'est vraiment ça dont on parle ici par rapport à cette étude-là. Lorsqu'on construit une route, il faut choisir la bonne composition d'asphalte en fonction de la température qu'on va ressentir pendant toute l'année dans cette région-là. Parce que on veut choisir le bon matériau pour que lorsqu'il fait froid, l'asphalte va pas se fendiller de toutes parts, ce qui va évidemment faire quoi? Ben, puis l'eau va s'infiltrer, ça va modifier le sol sous l'asphalte et on peut avoir des affaissements et ainsi de suite. Donc, tu veux pas que l'asphalte craque, bien entendu. L'asphalte, c'est comme la peau de la route, là. Tu veux pas qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre, de un. Et deuxièmement, tu veux pas non plus qu'au chaud, ben, que ça ramollisse et que ça affecte aussi la performance de ta route. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une étude qui a été faite aux États-Unis, c'est que les données de température qui sont utilisées pour concevoir ces routes-là ne sont pas à jour. On utilise des données qui nous viennent d'une période allant des années de 1964 à 1995. 95, c'est il y a 22 ans, là. 22 ans.
Et ça pourquoi ils font ça?
Pourquoi? Honnêtement, l'étude ne le dit pas, mais ce que ça a comme conséquence, on le sait, on parle d'une diminution de durée de vie de 3 à 4 ans des routes, ce qui cause déjà pour le moment des dépenses additionnelles de 13 à 14 milliards de dollars aux États-Unis. Et on s'attend...
C'est le vendeur de la matière première qui fournit les données? Quoi,
ben, on le sait pas, mais une chose est certaine, on s'attend qu'aux États-Unis, en 2070, ça va coûter 35 milliards de dollars par année, ces erreurs-là dans le choix des matériaux.
Merci, Martin Carly.
Bonne semaine.
Salut bien. On se retrouve samedi prochain, 7h. Bye-bye.